enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, j'aimerais traiter un sujet que nous connaissons tous, et pourtant qui est extrêmement délicat. J'aimerais parler du pardon. Mon thème sera « Pardonner ». Et j'aimerais pour cela ouvrir la Bible avec vous dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Nous lisons « Qui a cru ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. » Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ce matin, peut-être êtes-vous là et comme Jésus, vous n'avez pas forcément une beauté telle que les critères de notre société actuelle la définit, ni de l'éclat. Vous avez peut-être à cause de cela subi toutes sortes de moqueries. Eh bien, j'aimerais vous dire que notre Maître et notre Sauveur n'avait ni beauté ni éclat. Ce n'est pas le beau blond aux yeux bleus que vous rencontrez sur les tableaux. C'est certainement quelqu'un que nous n'aurions nous-mêmes pas forcément remarqué s'il était venu anonymement au milieu de nous. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Frères et sœurs, avez-vous été méprisé? Avez-vous vous-même été abandonné? Y a-t-il ici des gens qui ont été orphelins? Ou qui simplement ont vu le départ d'un des parents suite à un divorce. J'aimerais vous dire qu'en lui, eh bien nous avons celui qui peut nous comprendre. Il a été dédaigné. Il nous a dit, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lorsqu'il est parlé ici, dans ce contexte-là de guérison, j'aimerais remettre les choses à leur juste place. Il ne s'agit pas forcément de guérison physique premièrement. Très souvent, ce texte est invoqué et est proclamé comme s'il concernait d'abord la guérison physique. La guérison de laquelle il nous est parlé concerne d'abord votre âme, concerne d'abord tous ceux qui ont été blessés par les effets du péché, concerne le pécheur lui-même qui, eh bien très souvent dans ses actes, a amené à blesser et à être blessé. Il nous est dit là, eh bien que par ses meurtrissures, nous pouvons recevoir la guérison. Pourquoi ? Parce que le châtiment ne tombe plus sur nous, mais sur lui. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération, qui a cru ? Et parmi ceux ce matin de notre génération qui croient, nous pouvons nous poser la question qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a pardonné les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables, parce qu'il a pardonné les péchés, chers amis téléspectateurs, de beaucoup d'hommes, c'est-à-dire les miens et les vôtres, parce qu'il a pardonné nos péchés. Lorsque nous parlons du pardon, il nous faut, bien aimé, ce matin, revenir à la croix. Il nous faut prêcher la croix. À la croix, Jésus, eh bien, fait une œuvre qui est une œuvre expiatoire. Mais c'est au travers de l'œuvre de la croix que nous obtenons aujourd'hui la grâce et le pardon. Il s'est chargé lui-même de mes péchés et de mes iniquités. La sanction que je méritais est tombée sur lui et c'est à cause de cela que j'ai obtenu le pardon et la réconciliation avec Dieu. Mes amis, pardonner fait implicitement partie de la vie du croyant. Pardonner n'est pas une option à la vie chrétienne, c'est une nécessité. Lorsque nous prions le Notre Père, tel que Jésus nous l'a enseigné, nous disons cette phrase que vous connaissez tous, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et puis, Jésus termine en disant, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » L'enjeu est grand. Il s'agit du pardon de nos offenses. Nous avons tous eu la grâce d'être pardonnés. Pour moi, c'est un privilège. Pour moi, c'est, eh bien, une grâce que je ne peux mesurer. Je crois que lorsque nous entrerons dans la gloire, nous mesurons alors à peine la portée du pardon qui nous a été accordé et la portée de l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix. Je crois que nous ne sommes pas assez conscients de ce que Jésus a fait pour nous. Je crois que nous ne le mesurons pas assez. Alors si nous avons la grâce d'être pardonnés, nous avons également de l'autre côté le devoir de pardonner. Pardonner, je dirais que c'est plus ou moins facile ou difficile selon le tort que l'on vous a fait. Lorsque l'on ne vous a finalement que, eh bien, fait un peu de tort, pardonner ne me semble pas difficile. Je vous l'ai déjà raconté, cette expérience me reste toujours à cœur. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé, il n'y a pas de petit pardon à accorder, de grand pardon, lorsqu'il y a des années de cela, dans cette même salle. Eh bien, j'avais fait une expérience forte, au niveau du pardon. Pour ceux qui l'ont déjà entendu, excusez-moi, je le dis uniquement pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Les autres, fermez les oreilles. Avec Dominique, le samedi après-midi, nous avions eu une petite tension. Alors, elle a commencé petitement, la tension. Mais soudain, on est monté à 15, 20, 25 de tension. Et je dirais, eh bien, nous avons commencé à nous parler comme Johnny Hallyday en plein concert. Vous voyez un peu ? C'est-à-dire que les voisins ont eu la joie de participer à notre partage. Le sujet, évidemment, de controverse, c'était nos enfants. Ah, y en a un qui dit « tu m'étonnes ». Merci Jackie, je sens que je suis pas seul ce matin. Et puis, le soir arrivé, nous sommes allés nous coucher et la Bible dit, normalement, que nous ne devons pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. C'est pour cela que je dors avec la lumière allumée. Ça m'évite de pécher, vous voyez ? Vous n'y avez jamais pensé, hein ? Bien. Tous les couples mariés savent que quand on dort, on ne réfléchit pas forcément. Et puis, automatiquement, quand on dort, les habitudes reviennent. Alors, nous nous sommes couchés, elle à l'extrême sud du lit, moi à l'extrême nord. Chers amis téléspectateurs, vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être vous nous regardez en étant à l'extrême sud de votre canapé, à l'extrême nord. Alors restez, ce sera pour vous. Et puis quand nous étions couchés avec cet espace assez volumineux entre nous, dans la nuit, évidemment, je me suis oublié. Réflexe, vous êtes attiré par ce qui vous attire, n'est-ce pas? Et quand je suis dans ma chambre, eh bien automatiquement, je glisse vers mon épouse. Et là, j'ai commencé certainement à l'effleurer avec ma jambe. Le retour est venu rapidement, fortement et sans appel. Là ! Je ne savais pas ce que signifie le coup de pied d'un cheval cette nuit-là. Je sus. Non pas que je compare ma tendre et chère à un cheval, n'est-ce pas? Mais enfin, j'avais compris où est ma place. Je me suis donc retiré. Vous qui êtes fiancé, écoutez bien. Le lendemain matin, j'arrive ici, puis une sœur m'accueille, elle dit « ça va bien Samuel ?» Je dis « oui, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. » Et puis, je devais faire la louange. C'était très difficile de mener la louange, parce que je sentais deux yeux qui me touchaient. Et vous avez le sentiment que ça vous touche. Donc je chantais en regardant dans tous les sens, sauf là. Et puis, alors que je louais, que j'essayais d'emmener l'Église dans la présence du Seigneur, évidemment, je savais au fond de moi-même que quelque chose n'était pas correct, mais personne ne le sait, hormis tous nos voisins. Personne ne le sait. Et puis arrive un frère pour donner une parole prophétique ici, à ce micro. Un frère de langue allemande. Et comme personne n'était sur l'estrade pour traduire, j'ai traduit. Et il dit simplement, « Es ist heute Morgen ein Ehepaar hier. » Il y a ce matin un couple qui est présent ici. J'ai traduit. « Ihr seid gekommen und hattet Streit miteinander. » Vous êtes venu et vous aviez de la dispute. J'ai traduit. « Votre dispute a démarré avec vos enfants. » Il dit, « Oh là, ça chauffe mon ami. » J'espère qu'il y a un autre pauvre type comme moi dans cette salle. Et continue. Vous vous êtes couché, mais sur votre colère et sans vous demander pardon. Ça se précisait. Vous êtes venus tous les deux ce matin dans le même état d'esprit que hier. J'ai dit, Seigneur, je m'engage et je te promets, si tu ne lui dis pas le prénom, d'aller demander pardon à ma femme dès la fin du culte. Il était tellement précis que je me disais, le Seigneur va lui donner le prénom et je vais mourir sur l'estrade comme Ananias et Saphira. Raide. Il a terminé sa prophétie en donnant toutes les précisions, sauf le prénom. Vous ne savez pas ce que j'ai loué le Seigneur. Je te rends gloire pour ta compassion et ta miséricorde. Alors évidemment, à la fin, j'ai fait ce que je devais faire. Je suis allé la voir, elle m'attendait. Je savais que tu viendrais. T'as juste envie de partir, tu te dis mais. Moi, je pensais que le Seigneur passait sur ce genre de choses. Mais j'ai réalisé ce jour-là que non, aucun conflit, aucune blessure que nous avons infligée à l'autre, et certainement que je lui en ai infligée par certaines paroles, eh bien, ne peut passer à la trappe, ne peut passer outre. Nous sommes appelés à pardonner. Cependant, ce matin, comme je le disais tout à l'heure, je souhaite que le sujet soit traité avec beaucoup de compassion et de miséricorde. Et je vais vous dire pourquoi. Souvent, les victimes ont eu le sentiment supplémentaire qu'on les culpabilisait parce qu'ils ne pardonnaient pas aussi vite que nous l'aurions voulu. Et les chrétiens bien pensants qui les entourent leur disaient « mais il faut pardonner, si tu avances pas, c'est parce que tu pardonnes pas ». La seule différence entre le conseiller et le payeur, c'est que celui qui a encaissé les coups, celui à qui peut-être on a pris sa femme, celui peut-être à qui on a violenté son enfant, celui peut-être à qui le fils est mort parce qu'un ivrogne l'a renversé, celui-là est profondément blessé. Et voyez-vous, parfois il me semble que, eh bien, elles se sentent coupables de ne pas pardonner tout de suite et immédiatement. Et ce matin, je suis convaincu qu'il y a au milieu de nous des frères, des sœurs dont les blessures sont profondes, pour lesquelles pardonner n'est pas simplement, eh bien, dire « je te pardonne », pour lesquelles il faut plus. Alors voyez-vous, si le Seigneur nous mène dans le pardon, j'aimerais vous dire que Dieu est un Dieu juste. Et qui dit juste, dit également parfois que dans la justice de Dieu, il y a des sanctions. Quel est le rôle de la sanction? Lorsque je corrige un de mes enfants, lorsque je le sanctionne d'abord parce qu'il a fait une faute, mais ensuite, l'objectif final de la sanction, c'est d'emmener l'enfant à ne plus recommencer et à changer de comportement. Eh bien, quelque part, le pardon poursuit le même objectif. Réfléchissez. Le pardon ne devient effectif et actif que dans la mesure où la personne qui a été pardonnée se repent. Si elle ne se repent pas, et nous le verrons encore, le pardon n'est pas actif pour elle. Il est déjà agissant pour celui qui le donne. Lorsqu'une personne se repent, en fait, elle est appelée à changer de comportement. La sanction avait pour but le changement de comportement. Le pardon a pour but également d'amener l'autre, au travers de sa repentance, à un changement de comportement, mais plus encore, lorsque je pardonne, je reçois la guérison dans mon propre cœur. Bien-aimé, ce matin, je souhaiterais parfois qu'au milieu du peuple de Dieu, il y ait beaucoup plus de compassion et de miséricorde lorsque nous sommes confrontés aux gens qui souffrent. Nous venons avec des phrases toutes faites, « Pardonne, t'as qu'à pardonner ». Oui, peut-être, certainement que tu as raison, mais aide-moi dans ma démarche. Aide-moi. Ne viens pas simplement avec des formules toutes faites. Aide-moi. Pourquoi pardonner? C'est souvent la question qui m'est posée par ceux qui ont souffert. J'ai entendu maintes et maintes fois la chose suivante. Écoutez bien. Après que certains ont vécu des abus, après que certains ont vu leur mari partir avec quelqu'un d'autre ou leur femme, après que certains aient passé devant le tribunal et que celui qui un jour dans une église leur avait déclaré « Je te serai toujours fidèle, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te quitterai », ces mêmes personnes se trouvent devant un tribunal et là dans ce tribunal qu'entendent-ils? Celui qui quelques années avant dans une église leur promettait fidélité allait jusqu'à mentir pour gagner son procès, pour gagner son divorce, allait jusqu'à inventer des situations qui n'existaient jamais. La trahison et la blessure est profonde. Lorsque quelqu'un s'est marié, il a donné son cœur. Il est devenu une seule chair. Mes amis, aujourd'hui, on parle du divorce de manière très banale, mais les conséquences sont dramatiques et elles resteront toujours dramatiques. J'ai encore ces jours rencontré des jeunes gens qui m'ont dit « Mais le divorce de mes parents a été tellement difficile à vivre. » Alors, ces mêmes personnes vous diront « Mais pourquoi dois-je pardonner ? » D'abord, si je fais l'analyse, je suis la victime, on m'a trahi. Un homme me disait un jour, je suis arrivé à la maison, il ne me restait plus qu'une ampoule au plafond. Les meubles étaient partis, l'épouse était partie, les enfants étaient partis. On m'a tout pris. Une dame à qui on avait assassiné sa fille me dira, mais j'ai le sentiment, monsieur, que si je pardonne, c'est comme si je reniais ma fille, c'est comme si je l'oubliais. Pourquoi pardonner ? Pardonner, vous le savez comme moi, est loin d'être facile. Alors la question ce matin, pardonner ou ne pas pardonner, il y a différentes réactions. Je vais lui faire payer, je vais me venger, mais la vengeance vous rabaisse au niveau de celui qui vous a fait du tort. J'ai eu des entretiens dramatiques dans lesquels, eh bien, des personnes me disaient, entre autres, une dame qui me vient à l'esprit maintenant. Elle me disait, vous savez, mon mari m'a trompé, alors pour me venger, J'ai couché avec le premier venu. Je me sens tellement sale. Je me sens tellement minable. Mais j'avais tellement mal. Je voulais tellement que lui aussi souffre. Je voulais tellement qu'il ressente ce que j'ai vécu. Que j'ai fait ce que je regrette aujourd'hui. Je le regrette profondément, mais ce désir de vengeance, cette pulsion intérieure était tellement forte. Je ne m'en sens que plus misérable. Je ne m'en sens que plus désespéré. Peut-être, direz-vous ce matin, moi frère, je suis chrétien, je ne vais pas forcément me venger. Vous savez, dans la vengeance, on fait tellement d'erreurs. C'est cette femme qui a été mordue par un chien enragé. Alors elle a la rage, et puis elle va chez le médecin fait les analyses, il lui dit, en effet, madame, vous avez vraiment la rage, c'est terrible ce qui vous arrive. Alors elle se met à prendre un papier, elle griffonne dessus toute une série de noms. Un nom, deux noms, trois noms, quatre noms. Oh, le notaire se dit, le médecin se dit, ça y est, elle pense qu'elle va mourir, elle fait déjà son testament avec tous les noms. Il dit, attendez madame, j'ai pas dit que vous alliez mourir dans mon bureau, c'est grave, mais ça se soigne. Il dit, non, monsieur, ne vous inquiétez pas. Il dit, ah, je croyais que vous faisiez votre testament. Il dit, non, je fais pas mon testament, je fais la liste des gens que j'aimerais mordre avant que vous me soigniez. Vengeance, chers téléspectateurs. Mes enfants, la vengeance, que va-t-elle entraîner ? Elle ne va qu'entraîner plus de violence. Elle n'arrangera jamais rien. Nous le voyons et nous avons des exemples. Le monde entier est aujourd'hui rempli de guerres où une tribu se venge contre une autre tribu et vice-versa. Et ça ne cesse jamais. Mais ce qui est vrai au niveau d'ethnie, de tribu tout entière, est vrai également au niveau des couples, au niveau parfois de certains croyants entre eux. Alors peut-être direz-vous ce matin, bien, alors, j'ai au moins, le droit de le haïr. Voyez-vous, la haine va vous détruire, premièrement, vous. Je vous parlais tout à l'heure de cette dame dont la fille avait été assassinée. Alors que j'étais à l'hôpital, que je visitais une sœur de l'assemblée, je lui parlais de Jésus. Cette dame était à côté, regardait son téléviseur, suivait une émission comme vous êtes en train de le faire et vous faites bien de le faire. Et tout d'un coup, en écoutant ce que nous disions, elle baisse un peu le son de sa télé, et puis elle commence à écouter, puis elle arrête le son entièrement, elle continue à écouter, puis elle arrête l'image. Moi, j'étais très content, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Vous savez, ça c'est comme quand vous allez pêcher. Quand le bouchon descend une fois, vous êtes content. C'est quand, en général, il y a quelqu'un à l'autre bout. Et puis... au bout d'un moment, elle arrête le téléviseur, elle me dit « Monsieur, puis-je me confesser ?» Alors je la regarde, je lui dis « Je le veux bien, madame, mais je ne vous connais pas. » Elle dit « Qu'importe, voilà. » Et elle se met à pleurer. Et c'est là qu'elle m'explique que sa fille était mariée une première fois. Le mari la trompait hontement et vraiment ça avait détruit leur premier couple. Cependant, étaient nés quand même 4 enfants de ce premier couple. Et puis, du temps a passé, après un divorce difficile, douloureux, elle s'est remariée une seconde fois. Et alors qu'elle était mariée une seconde fois, ce second mari qui d'abord était censé être le prince charmant, vous savez, quand on recommence, on se dit toujours, ça c'est le bon. Mais ma maman me disait toujours, tu sais ce que tu as, tu sais pas ce que tu reçois. Et quand Dominique est fâché avec moi, je lui dis toujours, tu sais ce que tu as. Et ce que tu as, c'est le meilleur pour toi, Dominique. Hein ? Elle se marie, et puis ils habitaient ici, à la ZUP à Mulhouse, dans le même immeuble. La maman au premier étage avec son mari, la fille, je crois que c'était au 7e. Et puis voilà qu'au bout d'un moment, la fille venait régulièrement se réfugier, elle prenait des coups, le mari la frappait, le second. Et puis évidemment, quand il la frappait et qu'elle allait se réfugier chez la maman, il était encore plus en colère. Et c'est arrivé multiples fois, jusqu'au jour où elle n'est plus descendue se réfugier chez sa maman. Tout simplement parce qu'il l'avait poignardée de 40 coups de couteau. Et lorsque j'étais là dans cet hôpital, cette femme pleurait. Vous savez, venir avec un discours ficelé, « Madame, pardonnez, ça passera, ça vous sert à rien. » Je pleurais avec elle. Elle me dit, « Monsieur, regardez ce qu'il a fait de ma fille. » Elle me sort la photo de la fille dans le cercueil. Et elle pleurait, elle me disait, « Ma seule raison de vivre, l'énergie que j'ai encore, c'est la haine qui m'anime pour le tuer le jour où il sortira. » Elle me dit, « Monsieur, chaque nuit, je ferme les yeux, j'entends ma fille qui hurle. Mon mari est mort une année après de chagrin. Je n'ai donc plus de mari et ma fille unique a été assassinée. Mes petits-enfants sont maintenant dispersés. Je n'ai plus d'autre but ni d'autre raison. » Et là, je lui dis, « Mais madame, voyez-vous, quelqu'un comme vous, un père, a donné son fils. » Et j'ai commencé doucement à lui raconter l'histoire de la rédemption. Et petit à petit, elle écoutait. Plus elle écoutait, plus elle pleurait. Et avant de partir, je lui propose la prière. « Désirez-vous la prière ?» Elle me dit, « Oh oui, monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît. » Et nous avons prié. C'était un moment émotionnel extrêmement, extrêmement fort. Je prie avec elle, elle pleurait, je pleurais en priant, et je dis, « Seigneur, toi seul, tu peux faire grâce. » Elle était malade, la haine l'a tuée. Elle était dans cet hôpital seulement à cause de la haine. La haine la détruisait intérieurement et physiquement. J'ai prié, je suis parti. Quelques jours plus tard, un frère qui avait visité, après moi, à nouveau, la sœur qui était à côté de cette dame, vient me voir. Il me dit, « Je dois te donner le bonjour de Madame Intel. Elle te fait savoir la chose suivante, depuis que vous avez prié, elle n'a plus de cauchemar la nuit, elle ne voit plus sa fille, elle n'entend plus sa fille hurler, et maintenant, chaque matin et chaque soir, elle prie pour que son gendre rencontre Jésus et soit sauvé. » Bien-aimé, lui seul peut le faire. Mais quand on vous a tué votre enfant, alors, quelle que soit la manière, même quand c'est un accident, pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner? Certains se disent, « Bien, je vais l'ignorer. » Pouvons-nous, nous, eh bien, nous permettre le luxe de l'ignorer? Je ne crois pas. Puis-je ce matin me dire, « Il m'est permis de ne pas pardonner. » Non, mon frère. Non, ma sœur. J'aimerais rattirer votre attention sur ce que nous disons quand nous prions le Notre Père. Et ce sera là mon deuxième point. Puis-je me permettre de pardonner? Ou puis-je, pardon, me permettre de ne pas pardonner? Si vous pardonnez, dit Jésus aux hommes, leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque nous prions et que nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Savez-vous ce que nous disons littéralement? En grec, nous disons en fait la chose suivante. Père, remets-moi ma dette comme moi je remets la dette des autres. Lorsque vous dites pardonne-moi comme je pardonne, vous dites en d'autres mots, Père, remets-moi ma dette comme moi je la remets aux autres. Et j'aimerais là vous ramener sur une parabole que Jésus a donnée pour illustrer cela. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, je vais peut-être ne pas la citer littéralement, mais il y a la question d'un roi qui décide, d'un maître qui décide simplement de faire venir tous ceux qui avaient une créance chez lui. Il décide donc d'apurer les comptes. Arrive, dit la Bible, un homme qui lui devait 10 000 talents. Alors j'ai fait la traduction environ aujourd'hui. Cela représente 4 576 659 euros. 4 576 659 euros. Autant dire que je ne les ai pas. Et apparemment, il aurait pu être mon cousin, il ne les avait pas non plus. Le roi le fait venir, exige de lui qu'il paye la dette. Cet homme se lamente, tombe, demande grâce, et puis la grâce lui est accordée. Cependant, eh bien, ce dernier, rencontrant sur son chemin l'un de ses compatriotes, va lui-même exiger de son compatriote qui avait une dette à son égard de la lui rendre. La dette qu'il avait, écoutez bien, était de 100 deniers. C'est environ 7,62 €. On passe de 4 millions à 7 euros. La Bible nous dit la chose suivante. Comme il n'avait pas de quoi payer, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disait « Impatience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison. Maintenant écoutez la fin du récit. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi, dit Jésus, que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Mes amis, lorsque vous faites une comparaison des dettes, il n'y a simplement, pour employer un terme très actuel, il n'y a pas photo. Entre 7 euros et 4 millions, il n'y a pas photo. Entre ce que Jésus a accompli sur la croix, en me pardonnant, moi, et entre ce que moi je suis amené à pardonner, il n'y a pas photo. Je suis appelé à agir comme lui, quand même, ma blessure est profonde, le désir doit se trouver en moi. Regardez ce que Jésus dit à la fin, il dit que cet homme fut livré au bourreau. Quel est le rôle d'un bourreau? Le rôle d'un bourreau, mes amis, est de tourmenter et de torturer, voire parfois d'exécuter. Nous avons là, mais une merveilleuse image de celui qui est l'ennemi de nos âmes et qui, comme un bourreau, nous tourmente, nous torture et cherche parfois même à nous prendre la vie. Combien de croyants sont tourmentés? Tourmentés par la haine qui les ronge. Lorsque vous avez de la haine vous accompagne où que vous êtes. Vous pouvez aller à 10 000 km d'ici sur une plage de sable blanc. Vous vous couchez au soleil, vous fermez les yeux. Vous savez qui est avec vous? Celui qui vous a fait du tort. Vous lui avez payé le voyage gratuitement. Parce qu'il vous habite, il vous tourmente. Vous vous couchez la nuit, vous ne dormez plus, vous devenez irascible. En alsacien, t'as vir schassig? Verstehen? Hassig? Irascible, sombre, tu dors plus la nuit, tu te lèves en pensant à lui, tu manges en pensant à lui, tu te couches avec lui, ou elle, ça dépend. Et tu es tourmenté intérieurement, torturé. Bien-aimé, vous savez, l'apôtre Paul dit « Ne donnez pas accès aux malins ». Je suis profondément convaincu que l'un des moyens que le diable a pour avoir accès aux croyants, c'est le non-pardon, c'est le refus de pardonner. Parce qu'à ce moment-là, volontairement, le croyant qui refuse de pardonner s'ouvre à l'œuvre de celui qui torture et qui détruit. Il n'est pas question de croyants possédés, là. Il est question de croyants tourmentés. Alors vous allez venir, et vous allez venir à l'imposition des mains, comme si l'imposition des mains était un acte magique. On met la main sur la tête et c'est parti. Non. Non, tant que tu ne pardonneras pas, le tourment sera là. Et la Bible dit qu'il sera livré au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé en un mot. Le tourment sera là jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Frères et sœurs, ce matin, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas pardonner. Quand même, nous devons être conscients que pardonner, suivant ce qu'on nous a fait, est extrêmement difficile. Je vais pardonner. Mais qu'est-ce qui précède souvent le pardon? Quelle heure est-il? Je ferai une deuxième partie. On est d'accord? Je fais encore un point et on s'arrête. Vous êtes d'accord? Mais le point que je vais traiter risque d'en choquer quelques-uns. En tout cas, risque de remettre en question toute votre démarche évangélique habituelle. Lorsque je pardonne ou je décide de pardonner, le pardon est souvent précédé de la colère. Lorsque vous avez été meurtri, lorsqu'on vous a fait une injustice profonde, lorsqu'on vous a trahi, l'une des premières réactions est la colère. Que dit-on dans beaucoup d'églises? Te mets pas en colère, c'est pas bien, pardonne! Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'amener l'autre à imploser. Parce qu'il ne peut pas exprimer sa souffrance, parce qu'il ne peut pas exprimer son incompréhension. Vous êtes en train de l'étouffer, il est en train de refouler sa colère et elle va se traduire, je vais vous dire comment elle va se traduire, souvent par de la dépression. Il va dire « Je pardonne, mais pleure pendant des semaines. Je pardonne, mais il est écrasé. Il déprime, il se relève plus, il s'en sort plus. » Parce qu'on ne lui a pas laissé l'occasion et l'opportunité d'exprimer sa souffrance. Je vais vous dire ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens. J'ai pris la version Darby. J'ai beaucoup aimé l'expression dans Darby. Mettez-vous en colère. Mettez-vous en colère. Il y en a qui vont rentrer à la maison, ils vont se dire « Ah, alors là, il m'a fait du bien ce matin. Jetzt kann ich eigentlich schlagen. » C'est pas ce que je dis. Mettez-vous en colère et ne péchez pas que le soleil, même si vous dormez avec la lumière allumée, ne se couche pas sur votre irritation. Reprenons la parole. Lorsque vous considérez la parole, il nous est parlé souvent de la colère de Dieu qui s'exerce à l'égard des hommes. Plus de 20 mots différents sont employés dans les Écritures pour parler de la colère de Dieu. Deuxièmement, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé, entre autres, de la colère de l'agneau. Regardez. Et il disait aux montagnes, aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. » Bien-aimé, ce matin, celui à qui l'on a pris sa femme, il est en droit d'exprimer sa colère et c'est même nécessaire, je vais vous dire pourquoi. La colère va manifester le refus de l'injustice, elle permet à la personne de se situer. Elle te permet de te situer parce que j'ai vu des personnes qui ont été trompées, à la fin, elles se culpabilisaient elles-mêmes et elles étaient quasiment convaincues que si elles s'en sont arrivées aussi loin, c'était que de leur faute et uniquement de leur faute. Tu as, et nous avons, le besoin parfois de pouvoir exprimer la souffrance qui est en nous. Le fait d'exprimer ta souffrance n'est pas un péché. Le péché va suivre. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est comme tu commences à méditer le mal que tu pourrais lui faire. Le péché, c'est quand tu médites la vengeance que tu pourrais utiliser pour le détruire. Le péché, c'est quand tu commences, à médire sur lui pour l'anéantir. C'est là que commence le péché. Mais qu'à un moment donné, ta souffrance se manifeste, c'est normal. Mais l'apôtre Paul dit, mettez-vous en colère, mais ne péchez point. Exprime ton incompréhension. Exprime ta douleur, pleure, crie si tu veux. Alors que j'étais un jour confronté à une personne qui avait été trompée dans son couple, elle hurlait chez nous à la maison, elle hurlait littéralement, elle se cognait, elle disait « Pourquoi ? Qu'ai-je fait pour ?» Si je lui avais dit « Mais tais-toi sœur, mais arrête, mais non, faut sois zen !» Je vais t'en mettre moi du zen. Il fallait qu'elle puisse exprimer sa souffrance pour ensuite mieux envisager le pardon. Il ne s'agissait pas de chercher la vengeance. Il ne s'agissait pas de détruire l'autre. Il s'agissait de laisser la souffrance sortir. Mon frère, ma sœur, trop souvent, nous avons empêché celui qui a souffert de s'exprimer. Nous étions tellement spirituels. T'as pas le droit de dire ça. Mais non. Chut, pardonne. Et l'autre, il meurt à petit feu. Non, tu as le droit de le dire. Jésus était outré dans le temple, outré par ce qu'on faisait de la maison de son père. Il va aller jusqu'à prendre un fouet. Il était outré. Ce qu'il voit, le fait souffrir, il manifeste son désaccord avec ceux qui étaient là. Comment ? En prenant les tables des changeurs, en prenant le fouet. Oui, il le manifeste. Son désir n'a pas été de tuer ces hommes, mais d'arrêter ce qui n'était pas juste et de se situer par rapport à ce qui n'était pas juste. Alors ce matin, peut-être êtes-vous là et vous vous posez cette question. Et moi, comment vais-je pouvoir faire? Ai-je le droit de m'exprimer? Tu as le droit de t'exprimer. Oui, tu as le droit même de pleurer, de hurler s'il le faut. Mais ne pêche pas. Mais ne pêche pas. Que ta souffrance sorte, oui. Mais que cela te permette alors de mieux gérer l'avenir qui est devant toi. Pardonner comme il nous a pardonné. Le pardon est l'une des œuvres centrales de la croix. Souvenez-vous de ça. C'est pour ça que Jésus est mort. Ce sera là aujourd'hui notre première partie. Nous ferons la seconde partie, je pense, dans 15 jours. Prions ensemble. Nous sommes là devant toi, Seigneur, et nous avons besoin de ton secours. Lorsque tu es mort, Seigneur, même la nature fut en deuil et les ténèbres vinrent. Il y eut comme une colère de la nature face à l'injustice. Mais toi, Seigneur, volontairement, tu t'es chargé de nos péchés et de nos iniquités. Seigneur, c'est nous qui méritions la sanction et pourtant c'est toi qui l'as prise sur toi-même afin que nous obtenions grâce et miséricorde, pardon pour nos péchés. Tu nous dis, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Père, aide-nous à devenir semblables à Jésus. Aide-nous, alors que certaines blessures sont profondes, alors Seigneur que certaines trahisons semblent laisser des traces indélébiles, aide chacun, chacune ce matin. Que chacun, chacune sache qu'il y a de l'espérance. Que chacun, chacune comprenne que le pardon est une solution divine à ce que nous ne pourrons jamais régler autrement, correctement. La seule manière de régler le conflit, la trahison, la perte d'un être cher, en profondeur, accompagnée d'une guérison, c'est le pardon. Ni la haine, ni la vengeance, ni la rancœur jamais ne la porteront. Père, bénis-nous ici ce matin. Bénis les téléspectateurs qui sont en train de suivre cette émission. Seigneur, que là où qu'ils sont, ta grâce descende sur eux. Que la grâce de la croix coule sur vous, chers amis. Que la paix de Dieu descende sur vous. Soyez libérés de votre haine. Soyez arrachés au bourreau qui vous tourmente, pour mener une vie de paix, une vie sereine. Je te loue, Éternel, et je glorifie ton nom ce matin. Tu es Yahvé Shalom, tu es l'Éternel, ma paix. À ton nom soit la gloire.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.